Je ne sais pas trop comment introduire cet épisode d'aujourd'hui. Simplement vous dire que Joël de Ronay, que vous connaissez ou peut-être pas, une des personnes que j'admire le plus, c'est quelqu'un qui est un futurologue, qui est professeur au MIT, et je le reçois avec Aurélie Jean, qui est également professeur au MIT, qui est une scientifique numéricienne. Et on discute de l'éducation, mais vous allez voir, on parle beaucoup aussi de curiosité. En fait, on élargit énormément les sujets. On parle de société systémique, d'apprentissage systémique, de co-création, de collaboration. C'est une conversation un peu plus longue que d'habitude parce que passionnante, vraiment. Donc, je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc, bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, Aurélie. Et bonjour Joël, donc, oui. Je suis avec Aurélie Jean qui est une scientifique numéricienne, qui est déjà venue sur le podcast deux fois
oui.
Pour parler de sujets un peu différents, mais autour de la data et de l'intelligence artificielle. Et Joël de Ronay, je suis vraiment ravi de vous recevoir parce qu'en fait, on s'était déjà rencontré, mais je suis très honoré, on va dire ça. Vous êtes un protestiviste, un auteur scientifique. Et on va parler aujourd'hui du futur et de l'éducation, sans doute. Je pense que la première chose, moi, qui me vient en tête, en tout cas, c'est on est en train de voir, je crois que l'humanité est en train de vivre plein de révolutions différentes en même temps. Du coup, les gens sont assez perdus, on le voit par plein de signes différents. On sait que l'éducation, ça joue un rôle essentiel pour cette transformation. Peut-être la première question que moi j'ai en tête, c'est comment éduquer ses enfants ? Parce qu'on pourrait se dire, d'un côté, l'économie, c'est la connaissance de la terre, du travail et du capital, et aujourd'hui, c'est quand même le capital qui prend le dessus sur tout. Alors, est-ce qu'il faut apprendre aux enfants à coder d'un côté, peut-être, sur la partie numérique, ou alors, à l'inverse, les aider à retourner à la terre ? Et apprendre à cultiver des plantes, par exemple.
Alors, je crois que ce n'est pas aussi directif et aussi simple que ça. Ce qu'il faut leur apprendre, c'est l'approche systémique. C'est-à-dire comment les disciplines sont en fait séparées pour des raisons de pouvoir universitaire ou pouvoir scientifique, que le monde est uni, le monde est un, l'écosystème est une unicité dont nous dépendons et que nous modifions, qui nous modifie en retour. Donc c'est le feedback entre l'unité, l'écosystème et la modification de nous-mêmes par l'écosystème qu'on transforme. Donc c'est une vision systémique. Malheureusement, l'éducation est faite un monde coupé en petits morceaux pour des raisons de pouvoir universitaire, pour des raisons de facilité disciplinaire pour faire passer des examens aux gens, on découpe le monde en petits morceaux, en chimie, en physique, en économie, en écologie, alors que l'importance pour les enfants, c'est de leur montrer la relation entre les choses plutôt que les éléments séparés. Parce que les propriétés nouvelles résultent de l'émergence, de l'interactivité dynamique des choses entre elles et pas seulement des propriétés spécifiques de chacun des éléments.
Ok.
Je pense que ce que Joël dit est absolument vrai, c'est-à-dire qu'on doit apprendre des disciplines, mais en fait bien plus qu'il faut apprendre en fait à les relier et à créer une harmonie entre ces disciplines pour pouvoir justement défier les plus grands challenges du futur. Et ce que tu dis, Joël, est très vrai, c'est qu'aujourd'hui on fonctionne en silo. On parle souvent des silos en entreprise, on n'en parle pas forcément dans les institutions d'éducation. En études supérieures ou avant collège, lycée, école maternelle, mais ils existent aussi en fait dans l'éducation et que quelque part il faut créer cette transversalité entre les disciplines et apprendre aux enfants dès le plus jeune âge qu'en fait la chimie, l'économie, la biologie, l'histoire, la géographie sont reliées d'une certaine manière et qui vont devoir être liées encore davantage pour résoudre les prochains défis et challenges.
L'exemple que je donne souvent, c'est la biologie, l'écologie et l'économie. Mmh. Je montre comment biologie, écologie et économie sont reliées. C'est les mêmes principes systémiques de base. C'est-à-dire qu'il y a des éléments interdépendants, la dynamique du marché pour l'économie, la dynamique des espèces vivantes entre les plantes, les végétaux, les animaux qui s'échangent entre eux, c'est de la dynamique. Et puis l'écologie systémique, c'est une vision nouvelle de voir aussi l'écologie politique au sens où on peut faire quelque chose pour notre environnement. Donc cette vision systémique, elle n'est pas seulement nécessaire dans l'apprentissage, elle est nécessaire dans l'action.
Et comment ça se fait qu'en fait sur les, on va dire, 70-100 dernières années, on l'a perdu, ça? Parce que finalement, on a agi, il y a beaucoup de gens qui disent ça, hein, mais qu'on est arrivé comme une sorte de prédateur, donc on a utilisé les ressources naturelles plus comme comme une ressource justement, et on n'a pas considéré qu'on faisait partie de la planète, que c'était un ensemble. On a vraiment considéré qu'il y avait l'homme avec un au-dessus, et puis de l'autre côté des espèces animales, des espèces végétales, mais on s'est extrait finalement en tant que société de tout ce système.
C'est à cause du mythe prométhéen, de la croissance industrielle qui a primé absolument sur les esprits, sur les pouvoirs, et comment la croissance industrielle s'est transformée aussi en un pouvoir politique, puisque c'est grâce à la croissance industrielle que des financements d'élections politiques ont pu se faire, et que des politiques présidentielles ou premiers ministres, ou partis politiques en général, ont finalement dépendé du financement créé par les industries en croissance. Mmh. Donc il y a cette raison de pouvoir, qu'on met toujours de côté. Je pense qu'elle est la clé de tout. Le pouvoir dans l'université, qui a partagé les choses en discipline pour que chaque prof ait son propre domaine de pouvoir. Mmh. Le pouvoir dans l'industrie, le pouvoir en politique. Je crois qu'on met souvent en retrait l'importance fondamentale pour l'homme du pouvoir, comme le disait d'ailleurs Machiavel, libido dominandi, le plaisir de dominer. Donc c'était ancré dans la nature humaine de dominer, et ça donne du plaisir physique de dominer. Donc cette question de pouvoir, on la laisse toujours un peu de côté parce qu'elle est compliquée. Mais elle est là, elle est toujours là. Donc on a partagé le monde en petites disciplines pour des raisons de pouvoir, et on enseigne aux jeunes telle chose pour affirmer son pouvoir dans l'académie. Quand on est universitaire, il faut qu'on existe pour montrer qu'on a des élèves qui sont bons, qu'on a des examens qui marchent. Et donc, c'est toujours des raisons de pouvoir. On a partagé le monde en petits morceaux pour cette raison.
Mais j'avais jamais pensé à cette notion de pouvoir que je trouve très intéressante. Et du coup, on peut du coup se poser la question qui est que quand tu parles, Joël, de la croissance industrielle qui a engendré, en fait, renforcé en fait cette notion de pouvoir, que ce soit en politique, dans l'industrie ou dans l'école, au sens large, on est en droit de se poser la question si aujourd'hui les révolutions technologiques liées à l'intelligence artificielle, qui ont inévitablement réduit les temps d'échelle, hein, les échelles de temps, en fait, quelque part, est-ce que ça vient pas renforcer cette recherche de pouvoir et d'expansion du pouvoir, comme tu le poses ?
Alors, il y a deux visions.
D'accord.
Et la première vision, c'est que l'intelligence auxiliaire, comme je l'appelle, IA, intelligence auxiliaire, peut aider l'homme à augmenter les propriétés de son cerveau. Donc ça, c'est l'aspect positif de l'IA. Augmenter la capacité du cerveau humain par l'auxiliaire qui vient de l'aider à être plus. Être plus, ça veut dire pas avoir plus, mais être plus et partager, ça c'est une première chose, c'est-à-dire avoir plus de temps pour le lien social et le lien humain. Et puis j'ajoute un peu pour rigoler, IAK, trois lettres, IAK c'est le Yaka, le Yaka faucon. C'est l'intelligence artificielle qui va résoudre tous les problèmes du monde.
Oui.
Y a deux aspects, l'aspect positif auxiliaire et l'aspect négatif Yaka. On va s'en référer à l'intelligence artificielle pour résoudre tous les problèmes de l'éducation, tous les problèmes de l'économie. Donc il faut s'en méfier, il faut voir les deux aspects et bien balancer l'un par rapport à l'autre. Alors, comme vous le dites dans le cadre de l'éducation, l'intelligence artificielle en éducation peut aller dans le sens positif de décharger le professeur d'un certain nombre de tâches machinales. Mmh. Ce qui est machinal, confions-le aux machines. Et en dégageant les tâches machinales du prof, laisser plus de temps et plus d'espace au lien humain, à la solidarité, à l'empathie, au partage avec les autres, en connaissant chaque élève de manière individuelle, beaucoup mieux. Ça peut être le côté très positif de l'intelligence auxiliaire.
Mais justement, c'est pas ce qu'on a oublié, c'est-à-dire quelque part avec toutes les théories du début du XXe sur finalement l'homme est une machine. Est-ce qu'on n'a pas justement oublié toutes ces... Aujourd'hui, on fait un énorme retour de balancier sur... vous parliez... de l'empathie, mais surtout ce qu'on appelle des soft skills, donc des connaissances qui sont pas liées à un savoir-faire, mais plutôt à un savoir-être. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qu'on a oublié, qu'on est en train de remettre finalement sur le devant de la scène?
En fait, on l'a jamais oublié. Il a été moins prioritaire à cause de ces deux folies d'aujourd'hui, qui sont la croissance économique et soi-disant le bien-être social. Est-ce que croissance et bien-être sont liés? J'en suis pas sûr. La vieille équation, utilisation de ressources naturelles, fabrication de produits, croissance industrielle égale bien-être économique et social, c'est plus tellement valable. La plupart de gens maintenant trouvent que ça va beaucoup trop loin dans la destruction de l'environnement et dans la destruction de la relation entre les individus. Donc on était trop loin dans ce sens. Alors il y a une sorte de retour. C'est pas un retour en arrière, c'est un retour en profondeur. Mm-hmm. Pas pareil de retourner en arrière ou de retourner en profondeur. Il y a une volonté de retour en profondeur dont l'empathie est un des éléments dont on est en train de parler, mais aussi ce qu'on appelle de plus en plus le lien social, le lien humain. Le nouveau management digital, c'est à la fois le charisme de la personne qui veut vous entraîner quelque part, la vision, c'est-à-dire avoir une vision du futur pour donner envie aux gens d'y aller. Le troisième, c'est des valeurs pour fonder sa vision. Le quatrième, c'est l'écoute des gens. Et le cinquième, c'est la confiance. Ces cinq éléments sont, pour moi, les vraies caractéristiques du manager ou de la manageuse dans un monde digital de l'intelligence artificielle. Et justement, l'intelligence auxiliaire peut aider à libérer ces cinq valeurs pour modifier le management en profondeur.
D'accord. Et alors, par rapport à ce que vous dites tout à l'heure, et je vais poser d'abord la question à Aurélie parce que ça m'intéresse d'avoir sa réponse et ensuite la vôtre. Est-ce qu'on est dans un mythe du progrès? Est-ce que le progrès, c'est pas un mythe qui était finalement quelque chose du fin 19e, début 20e et qu'aujourd'hui, on est post, ce que dirait Maffezoli, que j'ai reçu aussi ici. On a une post-modernité, donc en fait, où lui, il combat beaucoup cette idée de progrès.
Je vais peut-être répondre en bruit. Oui. Alors, je me suis jamais posé la question comme ça. Je pense que c'est davantage les contours de la définition du progrès. C'est-à-dire que pour moi, le progrès, c'est l'innovation. Et la définition première de l'innovation, c'est de développer quelque chose, un concept, une idée, un produit, peu importe, qui va améliorer la qualité de vie de l'humain et du vivant. C'est peut-être ça, en fait. C'est qu'est-ce qu'on associe au progrès? C'est-à-dire, et je reviens sur ce que disait Joël sur le, il faut pas tomber dans du solutionnisme technologique numérique qu'il y a parce que ce serait une erreur. Toutes les réponses ne sont pas dans le numérique et en particulier dans l'éducation, faut pas l'oublier. Ouais. Et dans les méthodes pédagogiques ou autres. Mais après, je pense que c'est davantage la définition du progrès, tu vois. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le progrès? Est-ce que c'est, je pense que c'est intéressant parce que je pense qu'on serait étonné, voilà, on serait étonné de voir la définition des gens de qu'est-ce que le progrès. Certains pourraient dire c'est gagner plus d'argent. D'autres pourraient dire, c'est pour qu'une majorité de personnes vivent mieux. Je pense qu'il faut, c'est un mélange de beaucoup de choses. Il faut définir le progrès. Donc ça, je laisserai Joël définir ce qui est pour toi le progrès.
Alors pour moi, le progrès n'est pas technologique. On associe souvent la technologie au progrès en disant on avance dans les nouveaux systèmes de communication, les smartphones, Internet, etc. C'est ça, c'est le progrès. Non, le progrès, c'est pas ça. Les gens, la technologie ne change pas la société. C'est la réappropriation par la société, c'est-à-dire par les gens, qui change la société. La réappropriation, pas la technologie elle-même. Et je pense que le véritable progrès, c'est de gagner du sens pour sa vie. Le véritable progrès, ce n'est pas la technologie, c'est comment l'avancée humaine dans les connaissances partagées, dans la coéducation dont on parlera, comment ce progrès-là permet aux gens de donner plus de sens à leur vie. Qu'est-ce que ça veut dire donner du sens à sa vie? Ça veut avoir l'impression qu'on n'existe pas pour rien, qu'on existe pour faire quelque chose. Créer une bonne famille, créer une entreprise, écrire un livre, si on est jardinier, faire des belles fleurs, que ça. C'est la création qui donne du sens à la vie et la création évaluée, c'est-à-dire pas seulement la création pour créer. Un artiste a besoin aussi de savoir qu'on aime ou pas ses toiles ou sa musique.
Bien sûr.
Donc c'est la création plus le feedback. C'est la création plus le feedback qui donne du sens à la vie. Et je pense que pour moi, tout ce qui conduit à donner du sens à la vie des gens, c'est le progrès. C'est ce que j'appelle le progrès.
Ouais.
C'est pas le progrès technologique.
Oui, mais j'aime beaucoup la définition de Joël et je voulais rappeler. Enfin, Joël a écrit un très beau livre il y a un peu plus de 2 ans qui s'appelle Je cherche à comprendre. Et moi, je l'aurais intitulé Je cherche à expliquer.
Oui.
Parce que je pense que dans ce livre, c'est pas tant, tu cherches pas vraiment à comprendre, tu cherches vraiment à expliquer. Et je pense que le progrès va aussi dans la transmission des connaissances, du savoir et de sa propre appropriation des technologies ou de l'usage qu'on en fait envers les autres. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. On pense le progrès comme quelque chose de vertical ou d'unilatéral, alors qu'en fait, c'est complètement à 360 degrés dans la transmission, l'échange. Et ça revient à la notion de lien social dans lequel on revient quelque part, comme tu l'as dit, Greg, aujourd'hui. Donc c'est intéressant. On est peut-être dans une redéfinition du progrès qui peut-être revient à la définition primaire, à l'origine, je ne sais pas, mais c'est intéressant. Ouais.
Pour moi, dans le progrès, il y a 3 actions importantes. Il y a responsabilisation personnelle face au monde, action et évaluation. Ces 3 sont complètement liés. Mmh. pour vraiment être sûr qu'on a agi dans la bonne direction de ce qu'on appelle le progrès ou son progrès, il faut être capable d'évaluer. Si on n'est pas capable d'évaluer, on ne peut pas savoir vraiment si on a été dans le sens qu'on souhaitait ou pas. Et comment on évalue ? C'est grâce aux autres. C'est les autres qui vous aident à évaluer. C'est le retour qu'on a des autres. C'est pour ça que je dis toujours à mes enfants ou petits-enfants ou élèves, quand vous lisez un livre, parlez-en.
Oui.
Parce que c'est dans l'évaluation des autres qu'on se connaît mieux soi-même. Donc le progrès personnel, il résulte des autres, pas seulement de soi.
Et qui du coup change quelque part aussi l'idée qu'on se fait d'éduquer. Qu'est-ce que ça veut dire éduquer ? Est-ce que c'est un enseignant qui enseigne quelque chose à des élèves ou à des étudiants sans échange ? Ou est-ce qu'on va vers quelque chose, je sais que Joël...
C'est un catalyseur.
Exactement. Oui.
Le prof est un médiateur et un catalyseur. J'aime beaucoup ce terme qui est très scientifique.
Oui.
Qu'est-ce qu'un catalyseur ? C'est quelque chose qui permet à une réaction de se faire beaucoup plus vite parce qu'il crée les conditions de rapprochement des éléments, des produits chimiques ou des gens. Management catalytique porte bien son nom, c'est-à-dire créer les structures techniques, ressources humaines et moyens pour faire en sorte que les gens se rassemblent et développent l'intelligence collaborative, que je préfère appeler comme ça, que l'intelligence collective, ce qu'on voit partout. Donc créer les conditions de l'intelligence collaborative, c'est un management catalytique. C'est le management catalytique est beaucoup plus intéressant pour le manager et pour les gens que le management pyramidal top-down traditionnel.
Mais est-ce que ça ne s'oppose pas au pouvoir dont vous parliez tout à l'heure ?
Bien sûr, ça touche au pouvoir.
Ah, oui,
parce que ça touche au pouvoir. Le pouvoir systémique n'est pas du pouvoir pour beaucoup de gens parce qu'il implique la transversalité.
C'est ça ?
Il implique le partage. Et qui dit partage et transversalité, dites ça à un politique, c'est le contraire de son pouvoir.
Bien sûr.
Il est élu localement pour le court terme. Et s'il faut partager transversalement avec plein de gens, il perd son pouvoir. Mm-hmm. Donc ça va à l'encontre de ce qu'il recherche lui-même et de sa propre définition de sa politique.
Alors, est-ce qu'il faut redéfinir... Parce qu'en fait, quand je réfléchis comme ça et je vous écoute, et la référence que vous faisiez aussi sur le fait que l'homme donc, et la femme, par définition...
Aucun problème.
cherchent le pouvoir. Et en même temps, on voit bien que... C'est marrant parce que moi, j'avais eu cette discussion avec un ancien boss à moi qui me disait « Mais si tu partages tout ce que tu sais sur ton blog ou sur ton podcast, c'est quoi ta valeur ?» Et je me disais... Parce qu'en fait, on avait appris que le pouvoir, c'était le savoir. Et moi, je disais, mais non, mais en fait, mon pouvoir à moi, c'est de partager, au final.
C'est la transmission.
C'est la transmission.
Ouais.
Et en fait, c'est un changement d'état d'esprit, qui est très lié, d'ailleurs, à tout ce qui concerne le numérique. Et ce mouvement, finalement, il est nécessaire, indispensable, et on le voit pas trop arriver, en particulier dans une économie globalisée, mais on le voit aussi dans des États où ils sont un peu perdus, enfin les dirigeants sont un peu perdus. On recherche du localisme, mais c'est valable aussi à l'école où on n'est pas trop dans cette co-création, dans le co, on est plutôt dans la pyramide en fait. Et le prof, quelque part, il aime ça.
Oui, il a aussi sa pyramide de pouvoir dans l'université dans laquelle il se trouve. Vous avez employé un mot qui me plaît beaucoup, le mouvement. C'est dans la dynamique du mouvement que les choses se font. La dynamique du mouvement est créatrice d'émergence de propriétés nouvelles. Et c'est pour ça que je pense seulement au surf, parce que comme pratiquant et à la fois comme modèle de vision du monde, la vie est une vague. Et sur cette vague, on est dans ce que j'appelle en déséquilibre contrôlé. Le surfeur, il n'est pas en équilibre. S'il est en équilibre, il tombe. Obligatoirement, puisque sa planche bouge, la vague bouge, tout bouge. Donc, s'il est en équilibre, statique, il tombe. Eh bien, la vie, c'est le déséquilibre contrôlé sur cette vague. Le management moderne, c'est le déséquilibre contrôlé. C'est-à-dire de savoir qu'est-ce que c'est son cap, quel est le cap qu'on veut tenir, savoir quels sont les excès qui nous permettent, qui vont nous conduire à sortir de ce cap ou pas, et donc de mesurer en permanence et donc s'adapter. L'adaptation et le déséquilibre contrôlé sont les clés de la vie moderne pour quelqu'un, qu'il soit manager ou pas, pour sa propre vie. Mener sa vie, c'est avoir des objectifs, mesurer si on est en phase avec ses objectifs ou pas en phase, et les corriger par une forme de déséquilibre contrôlé.
Tu veux rebondir ou... Moi, j'ai une autre question.
Vas-y, je t'en prie.
En fait, du coup, je me dis... C'est intéressant parce que je pense que l'humain aime la stabilité. Et ce que vous dites, c'est qu'il faut être en déséquilibre contrôlé.
Oui.
Mais
contrôlé.
Déséquilibre malgré tout.
Mais oui.
Moi, j'adore le déséquilibre.
De toute façon, on l'est. La vie vous force à être en déséquilibre permanent. L'environnement nous agresse. Les discussions avec les gens nous agressent. L'économie nous agresse. Dans cette agression permanente, on est en déséquilibre. Mais il faut savoir son objectif et comment contrôler sa trajectoire.
Donc, il faut l'accepter quelque part pour mieux le contrôler.
Oui, bien sûr.
Et,
bien sûr,
ouais,
bien
d'accord,
sûr. Et avoir mettre en place les outils d'évaluation.
Ouais.
question pour savoir si on est sur la bonne piste ou pas.
Tout à fait.
Et alors, pour revenir à ce sujet d'éducation, comment on peut apprendre ça aux enfants? Enfin, admettons aux enfants sur le plus jeune âge, mais aussi après aux étudiants plus tard.
Bon, moi, j'ai deux mots qui reviennent. On peut élaborer autour de ces deux mots. Je les reprends, c'est la coéducation et l'approche systémique.
Ouais.
Les deux sont importants. Je commence par le second. L'approche systémique, ça veut dire qu'on va se concentrer plus sur les interdépendances et les interrelations que sur les éléments eux-mêmes séparés. Parce que, comme je l'ai dit, je le redis, les propriétés nouvelles émergent de la dynamique des interactions, pas seulement des éléments constitutifs. Donc, approche systémique et interrelation sont fondamentales pour créer la coéducation. La coéducation veut dire que quand on sait, quel que soit le niveau, quand on sait quelque chose dans une famille, dans une entreprise, dans une association, eh bien, quand on le passe à quelqu'un d'autre, c'est la coéducation. Puis cette personne, bien à sûr. Son tour, quel que soit son niveau, va le repasser à quelqu'un d'autre, en le modifiant. Donc la coéducation, l'Internet va être la clé de la coéducation des 30 prochaines années, avec la traduction automatique qui arrive. Elle est déjà maintenant, l'intelligence artificielle va créer du temps, de l'espace pour favoriser la coéducation mondiale. Je pense que l'Internet va être le grand catalyseur de la coéducation mondiale dans les 30 années à venir.
Puis il y a aussi un point important dans ce que dit Joël, c'est vrai que, auquel je crois beaucoup, c'est-à-dire que les technologies numériques peuvent être un moyen de démocratiser l'éducation à travers le monde. Moi j'en ai fait l'expérience parce qu'en fait on avait quand j'étais il y a 5 ans, on avait construit un cours en ligne au MIT et en fait c'est hyper émouvant de voir qu'il y a des élèves qui sont en Afrique du Sud, en Angleterre et qui suivent ton cours en live et tu vois tu les accompagnes dans ce cours et ça pour moi c'est la clé aussi, c'est la clé de pouvoir n'importe qui dans le monde va pouvoir suivre un cours, puisqu'en fait l'Internet est de plus en plus, se démocratise de plus en plus. Il y a des coins où il y a Internet et pas d'eau, il faut quand même s'en rendre compte. Donc Internet devient quelque part un vecteur de transmission d'informations pertinentes, pas que, mais faisons en sorte qu'on puisse utiliser Internet de la bonne manière pour démocratiser l'éducation et pouvoir apprendre ce qu'il faut.
C'est le grand espoir des MOOC, Massive Online Open Course, à condition qu'il y ait une interactivité entre les gens qui participent.
Exactement.
S'ils reçoivent les choses de manière pyramidale, qu'ils soient en Chine, en Afrique du Sud, en Italie, ça ne marche pas. Il faut créer avec les outils comme Skype, WhatsApp et d'autres, des moyens de parler entre soi.
Et c'est absolument vrai parce que je pense que la clé des MOOC, comme tu le précises, c'est vraiment la communauté. C'est-à-dire qu'un cours marche lorsque les gens peuvent s'aider les uns les autres, s'évaluer. Voilà. Et ça marche, c'est impressionnant. Impressionnant. Et j'ai moi-même fait un cours samedi dernier, c'est rigolo, parce que j'ai donné un cours samedi dernier d'un ami à moi qui est prof à Harvard et qui donnait un cours à Dubaï. Et j'ai fait le cours en ligne. Et ça, on n'aurait pas pu le faire on ne l'aurait pas imaginé. Et on a pu le faire. Et je trouve que c'est fascinant de pouvoir faire ça aujourd'hui.
Absolument.
Et alors, pour les personnes qui nous écoutent, qui sont plutôt dans les villes à Paris.
Pas que, mais beaucoup.
Il y a beaucoup d'urbains, on va dire,
qui
écoutent. Enfin, quand je regarde les statistiques,
il y a
vachement d'urbains, pas nécessairement à Paris, mais beaucoup d'urbains.
Dans les villes, oui.
Néanmoins. Comment eux, ils peuvent envisager, parce que eux, les questions qu'ils se posent, c'est et moi, mon enfant qu'est-ce que je lui apprends? Comment je l'éduque? C'est des questions aujourd'hui, je pense que les Français, mais de manière plus générale, dans les pays occidentaux, on est un peu perdu parce qu'on n'a plus les règles qu'on avait avant. Il y avait des règles qui étaient très claires entre la religion qui est extrêmement présente, l'armée qui est extrêmement présente, etc. Enfin, le service militaire. Aujourd'hui, finalement, tout est laissé à... Il y a beaucoup de liberté, on va dire. Donc, en fait, la liberté, c'est aussi énormément de questionnements et donc de problèmes, par définition. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces personnes-là?
Il faut leur apprendre à apprendre.
Exactement.
La première des questions, c'est de savoir chercher l'information dont on a besoin. Aujourd'hui, on a des outils extraordinaires qui n'existaient pas il y a 20 ans. Ça y est, Google n'existait pas en 2000.
Bien sûr.
En 2000.
C'est vrai.
C'est fou.
Il y a 19 ans.
C'est vrai.
Donc, on a des outils tellement extraordinaires.
Il a été créé en 97-98, mais s'est complètement démocratisé après.
2004, voilà, avec le smartphone qui est un ordinateur très puissant qu'on a dans sa poche. C'est le PC, le PC des années 70, il est là beaucoup plus, 20 000 fois plus puissant que le personal computer qu'on avait ici.
C'est la
révolution,
c'est pas faux,
sur l'ordinateur personnel dans notre poche, plus les moteurs de recherche. C'est un outil extraordinaire qui permet aux enfants d'apprendre à apprendre.
Ouais.
Donc il faudra apprendre à chercher. Le premier réflexe que les gens ont, ils ont ça dans leur poche, ils ont ça à disposition. Quand tu ne sais pas, cherche, mais surtout cherche les interdépendances, les interrelations.
Exactement. Ouais.
La sérendipité est le mot clé. C'est-à-dire, quand tu cherches quelque chose, regarde à quoi ça t'amène d'autres. parce que tu vas découvrir quelque chose auquel tu n'avais pas pensé avec juste un mot-clé. Donc, apprendre à apprendre, c'est apprendre d'abord à chercher sur cette immense base de données, ce big data, comme on dit, mondial, et l'intelligence auxiliaire va nous y aider encore plus. Donc, dès aujourd'hui, pratique l'IA, on peut le pratiquer. Google permet d'utiliser AlphaZero ou Watson d'IBM, il vous aide. Donc, commence déjà dès maintenant à chercher. L'important, moi, je mets toujours les gens sur cette question-là à faire des corrélations. C'est-à-dire que l'intelligence auxiliaire, sa grande force, c'est les corrélations. Nous, on passe notre temps à faire ça. Tiens, on m'a envoyé un mail avec un lien cliquable. C'est utile, je vais y aller. Et peut-être que ça, plus ça, ça m'amènera à un nouveau livre, à une nouvelle conférence, un nouvel article, un nouveau produit ou un nouveau service. On fait des corrélations. Or, la force de l'intelligence auxiliaire, c'est dans du big data absolument impossible à explorer, faire des corrélations, de dire trois mots-clés, et pof, elle vous rassemble la chose que vous ne pouviez pas faire vous-même. Et ça prendrait trop de temps.
Et pour rebondir sur ce que dit Joël, c'est vrai que le apprendre à apprendre, je pense qu'il est fondamental aujourd'hui, et c'est ce que dit beaucoup notre ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, et aussi la curiosité. Apprendre la curiosité, l'esprit critique. Et pour rebondir sur dit Joël, on a beaucoup été dans une réflexion logique dans l'éducation. Je pense qu'il faut rajouter cette réflexion analogique dans la comparaison et inductive. Voilà. Ouais.
Mais alors justement, et c'est exactement l'action que j'allais poser, c'est qu'en France, on apprend que la curiosité, c'est un vilain défaut.
Je sais, on m'a toujours répété quand j'étais petite, ça m'agace.
Et la curiosité, c'est la clé pour faire des connexions comme ça. Et en même temps, j'ai la sensation que beaucoup de personnes, soit cherchent des raccourcis, c'est-à-dire en fait... vont, et on le voit, ils lisent de moins en moins, ils lisent des titres, hein, parce qu'ils sont tellement submergés de contenu au final qu'ils n'arrivent plus à le consommer. C'est aussi pour ça que les podcasts existent, parce que ça permet de travailler sur, enfin, d'apprendre, ou en tout cas de se divertir, on va dire, sur un temps d'attention qui est différent, parce qu'en fait, il est partagé. On peut marcher, on peut faire du sport, on peut faire la cuisine, on peut faire ce qu'on veut. J'ai la sensation qu'on n'apprend pas, justement, aux enfants à être curieux, qu'on leur dit l'inverse. Alors qu'en fait, ils sont hyper curieux quand ils sont jeunes. À 5 ans, on pose énormément de questions. Et on leur dit, arrête de poser des questions.
C'est marrant. Non, il ne faut pas.
Il ne faut pas,
on le disait dans les familles bourgeoises, on ne parle pas à table. Il faut parler à table. Il faut se situer par rapport à ses frères et sœurs, par rapport à ses parents. Et donc, aujourd'hui, si vous voulez, il y a des choses fondamentales qui s'appellent les mêmes. Les mêmes, c'est des gènes sociétaux. Il y a des gènes biologiques dans l'ADN. Et les mêmes, ME, accent grave ME, c'est des gènes culturels. Ils sont transmis par la culture. Et malheureusement, beaucoup l'utilisent ça comme un cliché. Et au lieu de dire ces choses qu'on pense vraiment, on pense avec un cliché, une phrase toute faite qu'on a appris sur les réseaux sociaux. Et on est fiers de répéter ça parce qu'on a l'air intelligent et on a quelque chose à dire. Mais en fait, on réfléchit pas assez, on fait des clichés, des idées toutes faites, des idées acquises. Les mêmes sont à la fois extrêmement utiles et dangereux. Les mêmes sont utiles parce qu'un mème très court dans un tweet peut avoir un impact absolument considérable. On l'a vu avec le hashtag MeToo. Le hashtag MeToo a été dans le monde entier libéré. La réflexion sur les femmes, la parité, et a conduit, c'est ça qui est important, des politiques à changer l'ADN sociétal. Donc un mème qui est un gène culturel a permis aux politiques de changer l'ADN sociétal par des lois et des réformes. Donc ça montre comment un mème peut changer l'ADN. C'est une analogie un peu trop biologique, mais c'est le cas, ça existe. Mais en revanche, l'excès contraire, c'est que beaucoup de jeunes réfléchissent par des tweets qu'ils ont vus, dont ils ont vu des clichés sur les réseaux sociaux, sans penser vraiment à ce qu'il y a derrière, à ce qu'ils disent derrière. Et quelquefois, ils sont repris et retweetés et désinformés et mal traduits de ce qu'ils disent. Ils en subissent les conséquences.
Et pour la curiosité, c'est vrai que je comprends tout à fait ce que tu dis, Greg, parce qu'en fait, moi, j'ai toujours été curieuse et mes grands-parents ont alimenté cette curiosité depuis toute petite. Et en dehors du foyer familial, à chaque fois, on m'a toujours dit, il faut pas poser de questions, faut pas être. Enfin, on s'était toujours. Et moi, c'est quelque chose, je me bats. C'est-à-dire que même moi, aujourd'hui, quand je donne un cours à mes élèves, s'ils me posent pas de questions, ça veut dire que j'ai raté mon cours.
Oui.
Ça veut dire que j'ai pas éveillé leur curiosité. Parce que avoir des questions, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas forcément compris. Ça veut dire qu'ils se posent des questions au-delà du cours ou de la notion exposée. Donc pour moi, c'est un échec quand ils ne posent pas de questions. Voilà, je le dis. Voilà.
Je vais vous raconter une anecdote vécue que j'ai vécue au MIT, justement. J'avais un cours de 18 ans, les freshmen.
Okay. Mm-hmm.
Et ils étaient une cinquantaine dans la salle. Et puis je leur faisais un cours de chimie. Venant de France, j'étais fait un cours de chimie, mécanisme de chimie organique. Au tableau, je commence des trucs. Et puis un élève qui lève sa main comme ça, il me dit... Monsieur, vous dites ça pour vous faire plaisir ou pour nous apprendre quelque chose à nous? J'ai dit, je pense les deux. Qu'est-ce que vous feriez de mieux? Alors il me dit, écoutez, laissez-nous réfléchir, sortez un petit moment et on va vous dire comment on voudrait que vous fassiez le cours pour nous.
Ah, c'est intéressant.
Alors je suis sorti, je me suis caché dans un placard, j'avais tellement peur que les autres enseignants me voient dans le couloir. Je venais de France, j'étais premier cours, je me suis caché dans un placard à balai, j'ai laissé un peu ouvrir la porte. Puis j'ai vu qu'ils sont sortis, ils ont dit, venez, mettez-vous au premier rang. Ils étaient trois ou quatre sur l'estrade et ils m'ont dit, voilà, nous ce qu'on voudrait... c'est que vous nous emmeniez dans des laboratoires, nous faire visiter d'autres endroits où on peut essayer de comprendre quelque chose de compliqué avec d'autres personnes que vous connaissez. En qui vous
avez c'est fait. Génial.
Deuxièmement, ce qu'on voudrait, c'est nous faire le cours. Et vous, vous nous disiez, c'est pas comme ça qu'il faut faire, faites plutôt comme ça. Et en troisièmement, on veut pas d'examen, on veut simplement une conversation empathique dans laquelle vous notez la qualité de ce qu'on vous dit et le projet qu'on vous propose. Et ça m'a toujours servi. Ça s'appelait USSP, Unified Science Study Program.
Ah oui, les Unified, oui.
Il a continué au MIT longtemps après.
USSP, c'est nous qui l'avons créé.
À
ah, c'est dingue, je ne savais pas du tout.
USSP, Education Research Center, à l'époque, avec Jerry Zacharias et moi, on a créé le Unified Science Study Program, où il n'y avait pas de laboratoire de physique ou de chimie, il y avait le dry lab and the wet lab.
D'accord, c'est dingue.
D'accord. Donc le laboratoire sec et le laboratoire humide. Voilà.
Et ce que Joël expliquait est très important parce qu'on parlait de feedback au MIT, et je pense que c'est le cas, en France ça arrive, mais au MIT, moi j'ai toujours été notée par mes élèves.
Oui, moi
et
aussi.
En fait, et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup parce que les élèves, d'ailleurs j'ai toujours de très bonnes notes, je tiens à préciser, c'est vrai, en plus j'ai toujours eu le maximum de points, c'est très rigolo. Mais par contre, les élèves ont des remarques et ils ne sont pas forcément tendres dans leurs remarques, mais ils sont toujours constructifs. Et ben moi, j'arrive vraiment à améliorer mes qualités pédagogiques d'explication ou de cours d'enseignement grâce à eux. Et je leur remercie parce que je pense que sans leur retour, c'est la coéducation quelque part, parce qu'ils m'apprennent et ils m'éduquent sur mon métier d'enseignante. J'y arriverai pas sinon, parce que sinon t'es dans un tunnel et tu vois pas comment t'améliorer.
Mais là, c'est pareil. Allez-y.
Voilà, absolument. Plus âgé, alors après, moi, après ma thèse à l'Institut Pasteur, j'ai fait un premier séminaire au MIT. Là, c'était plus avec des élèves comme j'étais plus de 18 ans, c'était avec des gens carrément de 25-30 ans. Et je commence mon exposé au tableau sur un problème assez compliqué que j'avais étudié à Pasteur. Et il y a une fille qui lève la main comme ça et elle me dit « Je comprends rien du tout de ce que vous dites. » Je dis « Je m'excuse, je ne suis pas assez clair. » Non, c'est pas ça. C'est que vous prenez pas les choses dans leur contexte. Et donc, comme je comprends pas, il faut reprendre les choses dans leur contexte pour situer ce que vous avez à nous dire. Et ça, ça m'a vraiment interpellé. Parce que quelqu'un réagisse comme ça, en disant je comprends rien de ce que vous dites, alors que moi j'avais complètement calibré mon truc dans ma tête, ça m'a montré qu'aux États-Unis, il y a une différence dans un séminaire complète, que dans un séminaire, on n'est pas là pour écouter et gober tout ce qu'on vous dit. On est là pour interagir. Et donc, d'interagir dans la réaction contradictoire, il y a une interaction meilleure quand dans la réaction. C'est pour ça que les débats aussi à la télévision marchent tellement bien quand les gens se disputent par rapport à un débat où tout le monde dit « Ah oui, je suis d'accord avec mon voisin, il a dit ci, moi je dirais ça ». Donc le débat crée la controverse, même en science.
Tout à fait, et développe l'esprit critique de tout le monde.
Mais alors du coup, ça, encore une fois, ça va à l'inverse de ce que les profs font. Parce qu'en fait, en France, je crois aussi, on aime bien... asséner son savoir, c'est-à-dire qu'on a mis tellement d'énergie à l'apprendre, à le connaître, que du coup, et c'est pour ça que souvent, je trouve parfois des interviews un peu chiantes ou des conférences qui sont un peu lourdes.
Mais ça, c'est pas propre aux enseignants, enfin parce que.
Je sais pas.
Non, je sais pas.
Moi, j'ai l'impression qu'en fait, que c'est dans la culture française, française, je sais pas, c'est français spécifiquement uniquement, mais il y a pas un vrai partage. On est là pour montrer qu'on sait et quelque
Alors,
part,
ça,
on
vrai.
Retombe sur cette pyramide.
Tu sais, je vais donner un exemple très rigolo sur là-dessus. C'est sur les séminaires de médecine. J'en ai fait en France et aux États-Unis parce que à un moment, j'ai beaucoup travaillé en fait dans le domaine médical. Et en fait, j'étais très impressionnée parce que tu prenais un séminaire international où tu avais des Français et des Américains qui. Et je j'attaque pas les Français, c'est pas le but, mais c'est pour montrer la différence de culture. Le gastro-entérologue américain, la première slide, c'était parce qu'il travaillait sur l'estomac. Hein, où se trouve l'estomac dans le corps humain? C'est marrant comme slide. Les Français levaient les yeux au ciel en disant « ça ne sert à rien » et un Français aurait tout de suite attaqué le problème. Et bien quelque part, le fait que le médecin, le gastro-entérologue américain commence par « où est l'estomac dans le corps humain ?» et je vous ai raconté l'histoire autour de ça, permettait de mettre tout le monde au même niveau et de comprendre de quoi on allait parler Et quel était le lien? Parce que du coup, il travaillait sur l'estomac, mais bien évidemment sur les organes qui l'entouraient. Et je trouvais cette approche vachement intéressante parce qu'en fait, elle nous rassurait, elle nous entrait en fait quelque part dans le tunnel de réflexion qui est on va parler de l'estomac et que de l'estomac. Et ça, c'est une approche qui est très différente, tu vois. C'est-à-dire, alors je sais que c'est très critiqué en France et c'est quelque chose, ça me fait un peu de peine, c'est le storytelling. Mmh. Le storytelling, c'est pas négatif, c'est pas de la bullshit, tu vois, si je puis me permettre. Le bon storytelling, c'est une manière de, et moi, ça, j'ai appris, et il y a des Français qui le font très très bien d'ailleurs, hein, c'est d'apprendre à travers une histoire, d'essayer d'amener les gens vers la compréhension de concepts compliqués qu'ils n'auraient pas écoutés ou appris s'ils n'étaient pas passés par ce storytelling, et peut-être aussi de leur faire d'ouvrir leur curiosité. Le storytelling, c'est pour moi hyper intéressant pour essayer d'amener les gens vers des concepts compliqués dans lesquels ils n'auraient pas été. Et c'est pas quelque chose de négatif forcément.
Alors, enfin, moi, c'est la base de ma vulgarisation.
Ben, je sais, oui, je sais.
Je suis vulgarisateur, je revendique le terme.
Je trouve que c'est important.
C'est un terme noble, parce que la vulgarisation, c'est pas de descendre vers les gens qui sont pas censés comprendre, c'est au contraire de m'élever vers eux, qui ont une vision beaucoup plus multidimensionnelle.
Exactement,
que simplement de comprendre une partie scientifique minuscule. Donc le storytelling, c'est la base de ma vulgarisation.
Pense. Ouais, je sais,
je raconter sais. Des histoires. Et deux autres qui font ça aussi beaucoup, c'est Hubert Reeves et Yves Coppens.
Oui.
On a écrit un livre
Hubert
ensemble.
Hubert Reeves énormément.
La plus belle histoire du monde, c'est une
histoire. J'adore.
Chacun raconte une histoire.
Ouais. Et il y en a beaucoup en France qui le font. Mais c'est vrai qu'il y a encore... j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément bien vu, le storytelling en France. Peut-être que je me trompe, hein, mais certains ont encore un avis dur sur le
moi
sujet.
Il y a une union française qui s'appelle l'union rationaliste.
Oui.
Son terme existe. L'union
D'accord.
rationaliste, c'est des profs très rationalistes, des enseignants, des scientifiques qui critiquent le storytelling.
D'accord. Parce que je ne connaissais pas.
On m'a beaucoup critiqué d'utiliser des métaphores comme la cellule est une petite usine cellulaire avec des machines-outils, des chaînes de montage. Les gens qui critiquent le storytelling critiquent ces analogies et ces métaphores.
D'accord.
Beaucoup trouvent qu'au contraire, ça dévie la réflexion. Il faut dire les choses dures telles qu'elles sont. C'est une approche scientifique que j'ai pas moi.
Pour moi, on s'éloigne de la vulgarisation, parce que la vulgarisation, c'est trouver des analogies, des métaphores, des comparaisons qui vont permettre à la personne qui écoute de s'identifier et du coup d'avoir les oreilles et les yeux grands ouverts.
Voilà, c'est ça.
Donc quelque part, si je vous écoute, il faut... Pour les parents, en tout cas, faire en sorte au maximum de eux ouvrir leur curiosité.
Oui, curiosité.
Pour aider leurs enfants à apprendre à apprendre.
Parce que vous savez, les parents ne s'informent pas beaucoup. Les parents regardent la télé, ils lisent quelques journaux, mais c'est rare les parents qui vont vraiment creuser sur Internet avec cet outil incroyable qu'on a à notre disposition, des histoires qu'on va chercher, quelle fois qu'on imprime, qu'on met sur son smartphone ou sur sa tablette pour les avoir sous les yeux. C'est rare les gens qui font ça. Mais c'est comme ça vraiment qu'on peut aider ses enfants à mieux apprendre à apprendre. Mais
est-ce que c'est pas aussi une reproduction, si on fait ça, il n'y a pas une forme de reproduction sociale, c'est-à-dire que quelque part faire ça, c'est aussi avoir une forme de culture soi-même pour avoir le temps d'abord, parce qu'il faut du temps pour pouvoir être curieux. Enfin, pas nécessairement, mais enfin quand même, quand on travaille beaucoup, beaucoup sur des travaux qui sont pas forcément très sympas, on n'a pas vraiment l'occasion d'avoir des interactions intéressantes avec ses collègues. Et puis, on doit aller au travail, voir ses enfants, etc.
Ouais.
Mais est-ce que, vas-y, dis-moi.
Moi, je pense que c'est l'inverse parce que je suis l'exemple de ça. C'est-à-dire que moi, je viens de classe moyenne et mon papy, ma mamie qui m'ont élevé, on n'avait pas d'argent, on n'a pas voyagé, on n'a pas. Voilà. Mais en fait, j'ai fait plein d'autres choses et mon grand-père a développé ma curiosité qui m'a beaucoup aidée. Vraiment, hein, vraiment. Et la curiosité, c'est tout simplement expliquer pourquoi le ciel est bleu, pourquoi l'eau bout à 100 degrés, pourquoi les églises sont faites de la sorte, pourquoi les ronds-points sont faits comme ça, pourquoi... Et en fait, pour moi, il n'y a pas besoin forcément... Alors certes, après, c'est vrai que pour se renseigner, pour aller, il faut avoir... Mais encore, je pense qu'au contraire, apprendre à apprendre et susciter la curiosité chez ses enfants, et au contraire... transclasse sociale, si je peux dire ça, je ne connais pas le terme exact, parce que je ne sais pas ce que tu en penses, Joël, mais je pense que ça, c'est pas une question de moyens financiers, en tout cas.
Non, c'est une question d'attitude, d'une culture.
Voilà, oui.
On a une culture de
mais
la
je
complicité.
Comprends ce que tu dis, Greg. Enfin, oui. Je comprends la question.
Absolument. Mais je pense que les parents doivent être préparés eux-mêmes à se acculturer, culturer, pour pouvoir transmettre l'information mieux à leurs enfants. Mais beaucoup de parents... Vous parliez du temps tout à l'heure. Mmh. Et c'est très important ce que vous dites, parce que beaucoup de gens disent « j'ai pas le temps, je peux pas le faire ». Mais on n'a pas le temps. Le temps n'existe pas, il coule. Donc on possède pas le temps. On n'a jamais le temps. Mais on peut prendre du temps sur le flux. C'est encore une fois le surf. La dynamique de la vague fait qu'on est sur quelque chose qui bouge et on bouge avec. Donc, avoir du temps, on n'en a pas, ça coule. Mais prendre du temps, sauver du temps dans un capital temps, créer des dividendes temporels plus faciles à utiliser que les segments temporels imposés par la société ou par son entreprise. Les segments temporels font qu'on les a ou on les a pas. J'ai le temps, j'ai pas le temps. Ça rentre ou ça rentre pas dans ce que j'ai à faire. Alors que créer un capital temps très tôt dans sa vie, qui se traduit par beaucoup de choses, un réseau d'amis, un réseau de livres qu'on aime, savoir chercher sur Internet dans les moteurs de recherche, ce capital temps crée des sortes de dividendes temporels qu'on peut utiliser beaucoup plus facilement et replacer plus facilement. C'est la différence entre ce que j'appelle le temps court, le temps long et le temps large. Le temps large, c'est le capital temps, donner du temps au temps. Le temps court, c'est les instantanéités. Bergson disait, c'est là où se situe l'intelligence. Et le temps long, c'est l'intuition qui permet de relier les choses entre elles.
Hyper intéressant.
Je suis assez d'accord avec Joël, c'est vrai. Ouais. Et je pense que c'est... Après, je comprends ton questionnement, Greg. Et je pense que c'est important d'avoir ça à l'esprit. Est-ce qu'on ne crée pas des gaps sociaux? Est-ce qu'on ne crée pas des différences profondes? Je pense au contraire, on a les moyens ici. Et pour revenir sur ce que disait Joël, la question du temps, il faut prendre son temps. Le temps, je pense, c'est la chose, à mes yeux, hein, c'est le luxe d'aujourd'hui, avoir du temps. Prendre son temps. Moi, j'aimerais qu'une journée dure 50 heures sans que je vieillisse plus. Voilà, ça c'est important par contre. Mais le temps, en fait, je pense que tout le monde peut appréhender le temps, quel que soit ton bagage culturel, intellectuel, social. Mais encore faut-il en avoir conscience et voilà. Et
on a des outils extraordinaires
aujourd'hui,
gens ne savent pas bien utiliser.
Peut-être, ouais.
On a des outils, les
moteurs
de recherche.
Ou peut-être à mauvais escient, c'est vrai.
Mais oui, cet outil qu'on a sur soi en permanence, qui est une prothèse intellectuelle d'amplification de notre cerveau,
j'aime bien ça.
Nous permet d'être en contact avec une mémoire globale mondiale qu'on n'a pas nous. Mmh. Et ça, on ne s'en sert pas assez. Et
d'ailleurs, pour aller à l'inverse de ce que je disais juste avant, parce que bon, c'est intéressant, il y a vachement de tests qui ont été faits sur des enfants qui n'avaient pas accès à l'école. Et en fait, ils ont mis des tablettes dans des murs. Je ne sais pas si vous connaissez cet exemple. Oui, ils ont permis aux enfants d'apprendre tout seuls. Et en fait, ils se sont rendus compte que, un, les enfants apprenaient à parler anglais alors qu'ils étaient en Inde. Et que, voilà. Parce qu'en fait, ils étaient attirés par ces tablettes qu'ils ne pouvaient pas apprendre, évidemment. Et en fait, ce qui est intéressant, c'était vraiment de la co-création, éducation. C'est-à-dire qu'après, ceux qui avaient appris et qui comprenaient,
ils enseignaient
aux autres enfants.
Oui,
donc il n'y avait même pas de professeur. Voilà, en fait.
Bien sûr.
Donc ça marche même pour des personnes.
Boule de neige.
Donc, voilà. Alors ce podcast s'appelle Vlan. Je voudrais savoir à quoi vous voulez ouvrir ou claquer la porte.
Vérité, liberté, autonomie, nature. Pour moi, ça c'est Vlan. Et donc, c'est ces quatre mots pour lesquels je voudrais ouvrir les portes, la vérité, dire la vérité, toujours être sincère, la liberté de dire ce qu'on voudrait dire, l'autonomie, l'indépendance et la nature, la relation permanente avec l'écosystème interne et l'écosystème externe, faire la relation entre les deux pour exister.
J'adore.
Moi, j'adore. Du coup, ça me donne une énorme pression à mon tour. Moi, j'ouvrirai des portes, parce que je ne savais pas qu'on pouvait ouvrir des portes avec Blanc, j'aime beaucoup. Moi, j'aimerais ouvrir des portes sur la curiosité, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Et je pense qu'il aide les gens, et j'essaie de la susciter chez les autres à la hauteur de mes moyens. Et donc, j'ouvre des portes à la curiosité. La curiosité n'est pas un défaut, c'est l'une des plus grandes qualités.
Super. Merci beaucoup à vous deux.
Merci, Grégory.
Merci.
Et fermé?
Ah, vous voulez fermer?
Vas-y, je t'en prie.
Je ferme la porte aux égoïstes,
ouais,
aux sceptiques et aux pessimistes.
Okay.
J'ouvre la porte à ceux qui ont envie de construire ensemble le futur souhaité plutôt qu'un futur subi.
I approve that message.
Donc toutes les personnes qui sont dans le comment on appelle ça, je ne me souviens même plus du terme, l'effondrement. Vous n'êtes pas pour
les collapsologues, pas
les
du tout.
Collapsologue, je ne sais pas qu'il y avait un terme pour ça. Ah, c'est dingue.
La collapsologie, c'est un truc complètement médiatique pour faire parler de soi.
Bon, bah, on leur ferme la porte.
C'est vraiment à l'encontre de la vision de Gramsci, le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté. Moi, je suis plutôt dans la seconde version.
D'accord, c'est très beau. Merci beaucoup à
Merci
vous
Merci Joël.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.